Bonjour à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir cet après-midi pour justement cette rencontre avec, autour de Jean Esnoz, de son écriture, avec donc tout un panel que Gérard Berthaumieux va se faire un plaisir de vous présenter, de spécialiste de l'écriture de Jean Esnoz. Donc cet après-midi s'inscrit dans, vous le savez, l'exposition Jean Esnoz et toute une série de manifestations organisées autour, des lectures avec les élèves du conservatoire. Il y a eu déjà une rencontre avec Jean Esnoz et Giorgio Pinotti, son traducteur, que vous pourrez retrouver sur notre web TV. Elle a été captée, tout comme cet après-midi. Et donc, il y aura une future rencontre le 5 février autour de lecture par la classe de Robin Rinucci, ici même, le 5 février, et avec Jean Esnoz lui-même. Mais dans l'immédiat, je cède la parole à Gérard Berthaumieux, qui est professeur de linguistique et de littérature française, et qui est surtout le conseiller scientifique de cette exposition, et qui va venir vous présenter les intervenants de cet après-midi et les thématiques abordées. Merci à vous.
Je vais fuir les projecteurs. Je reste là, à la croix blanche. Bon. Donc, j'ai le projecteur dans les yeux, je ne vous vois pas, mais vous êtes bien là, je vous devine. Bonjour à tous. Donc, je ne ferai pas de remarques sur Esnoz lui-même. Je vais me contenter de présenter les 5 collègues que vous allez écouter en 2 temps, avant et après l'entracte. Donc nous commencerons par, c'est le premier là à votre gauche, Bruno Blankmann qui est professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, qui est un grand spécialiste du roman du XXe et du XXIe siècle. Il a beaucoup écrit sur Duras, sur Senal, Agnernaud, mais également Esnoz. Alors il y a un ouvrage de lui qui fait référence, qui s'appelle « Les romans indécidables », qui est consacré à 3 romanciers contemporain, dont Jean Esnoz. Et c'est à ce titre que je lui ai demandé d'ouvrir, vous le verrez, la conférence. Alors nous entendrons ensuite un tandem formé par Agnès Castiglione et Stéphane Chaudier. Alors Agnès Castiglione est maître de conférence honoraire de l'Université de Saint-Étienne. Elle est elle aussi spécialiste du roman contemporain. Elle a notamment beaucoup travaillé sur Pierre Michon. Elle vient d'assurer l'édition d'un numéro des Cahiers de Lerne sur Pierre Michon. Et elle a aussi travaillé sur Esnoz, notamment dans un très beau numéro d'une revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Siècle 21, qui en 2010 avait consacré son 17e numéro à un dossier Esnoz. Elle y a fait un papier tout à fait intéressant. Et elle sera suivie par celui que vous avez tout à fait à votre droite, Stéphane Chaudier, qui est professeur à Lille. Alors, même chose, qui est grand spécialiste du roman contemporain. Je vous passe le détail. J'ai toujours en mémoire de lui un livre qui m'avait beaucoup marqué, très beau livre sur Proust, qui s'appelle « L'œuvre cathédrale hein, »,« Pensée religieuse dans l'œuvre de Proust ». Qui aussi s'est intéressé à Esnoz, pas plus tard qu'au mois de juin dernier, mais hélas, je n'ai pas pu l'entendre. Et il y a eu un colloque à l'Université de Versailles sur les changements de style, et il y a traité d'Esnoz, où effectivement le problème des changements de style est assez palpable, hein, comme vous l'avez vu. Alors après l'entracte, nous entendrons un deuxième tandem. Alors les deux personnes sont là, voilà. Donc il sera formé de Florence Leca-Mercier, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne et qui fut, ça me rajeunit, mon étudiante avant d'être ma collègue. Florence, qui est également spécialiste auteur du XXe, elle a fait sa thèse sur Jean Genet. Alors comme elle est stylisticienne et linguiste, elle s'est plutôt ensuite spécialisée dans des monographies sur l'effet de langue. Elle a fait un livre sur l'ironie, un livre sur l'adjectif. Et elle a participé, alors comme Bruno Blankmann, comme également la dernière que je vais vous présenter, à un colloque sur Esnoz que j'avais organisé en fin 2013 à la Sorbonne, qui s'appelait « La fiction, la langue ». Alors, actes du colloque, ils sont un petit peu problématiques, ils ne sont toujours pas édités, mais ça vient, ça va venir, n'est-ce pas? Et je pense que ce sera un bon livre. Et Florence y avait fait une étude sur les grandes blondes à cette occasion. Enfin, vous entendrez Christelle Reggiani. Alors, elle, son auteur de prédilection au XXe siècle, c'est Pérec. Elle y a fait sa première thèse. Et elle s'est ensuite spécialisée dans la rhétorique du roman moderne et contemporain, avec un très beau livre qui était sa thèse d'habilitation sur l'éloquence du roman. Et elle avait, elle aussi, participé au colloque sur Echnoise avec quelque chose sur le temps que je n'ai pas oublié. Voilà, donc nous allons procéder d'abord à l'audition des trois premiers conférenciers. Je vous propose que, j'espère que les questions seront nombreuses, je l'espère, je vous propose de laisser les questions pour après les trois exposés. Nous ouvrirons le débat à ce moment-là, puis nous prendrons une pause, nous écouterons les deux derniers et nous finirons par un deuxième débat tout à fait en fin de parcours. Voilà, merci d'être venu et je vais laisser donc la parole aux conférenciers en commençant par Bruno Blankmann qui va vous parler de la plaisanterie dans l'envoyé spécial. Il y a de quoi faire et vous vous en doutez.
Je vous remercie Gérard Berthomieux, je vous remercie doublement aussi pour cette présentation et pour cette exposition tout à fait remarquable que vous avez consacrée à l'œuvre de Jean Echenoz. Alors si beaucoup de romans font rire à leurs dépens, rares sont les œuvres régies, à l'image de celle de Jean Echenoz, par quelque intelligence communicative du rire. Par là, entendons une manière d'établir, avec le lecteur, différents degrés de connivence, tenant à distance la machinerie à convention nécessaire au lancement d'une histoire et calculant l'effet productif qui en résulte en termes de retour critique, quand on ne se satisfait pas davantage du prêt-à-penser et du prête à parler. Notre écrivain, qui connaît ses classiques, a certes d'illustres prédécesseurs, Rabelais pour l'énergie comique, Diderot pour le jeu de la distanciation, Proust pour l'art de la satire, Queneau pour l'usage de la parodie. Il a par ailleurs lui-même ouvert la voie en la matière, au début des années 1980, à des œuvres comme celles de Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard ou encore Pierre Sange. Mais il est une singularité propre à l'œuvre de Jean Echenoz qui tient à un certain art du jeu, préemptant d'emblée, à des degrés différents d'exposition, le statut de la narration, la figure du narrateur, le médium langagier et l'attitude même supposée être celle du lecteur. Le sens de la plaisanterie, tour à tour discrète ou gauloise, scande l'histoire racontée comme un rythme interne à la narration, à ses personnages, ses situations, ses décors et ses différentes instances. C'est cet art plaisant d'écrire et de raconter que je me propose d'étudier, un art trop plaisant pour être pleinement honnête, trop régulièrement drôle pour ne pas quelque peu grincer du sens. Pour soutenir cette étude, je m'appuierai sur le dernier ouvrage à ce jour publié par Jean Echenoz, Envoyé spécial. Il relève de ces grandes fictions du jeu avec les formes pararomanesques par lesquelles l'écrivain, pendant un bon quart de siècle, a entretenu sa production de ses débuts en 1979 au début des années 2000, puis qu'il a mis en sommeil depuis une quinzaine d'années. Un roman donc écrit comme en retour du temps de l'œuvre sur elle-même, un roman fantôme, mais un fantôme sur les draps duquel se projetteraient les histoires drôles d'un temps qui, lui, l'est moins drôle, avec ses psychopathes mégalomanes régnant à quelques heures d'avion du pays et ses assassins domestiques dissolvant en toute quiétude leurs compagnes à trois stations de métro. Tout est art de la composition en souplesse chez Echenoz, et c'est cette ordonnance sans insistance des effets d'ensemble, doublée d'une minutie sans maniaquerie dans l'art du détail, qui confère à ces romans leur dimension plaisante. Un certain plaisir du texte s'en dégage, de l'ordre de la liberté sous contrôle. Leur drôlerie aussi, l'alternance du familier et du singulier, prêt à rire ou à sourire, par effet de connivence autant que de surprise. Cette esthétique de la plaisanterie caractérise la confection littéraire d'Envoyé spécial, comme naguère celle de Cherokee ou Je m'en vais, par exemple. Si l'on considère les grandes composantes organiques du roman, l'art du titre, car c'en est un chez Echenoz, La logique du récit, qui s'est connue, suffit aux postulations de la morale, et plus généralement, dans l'œuvre d'Eschenoz, à celle du sens. Le statut de l'énonciation romanesque, enfin, que l'écrivain se plaît à bidouiller pour notre plus grand bonheur. Commençons par le titre, donc, « Envoyé spécial ». Expression toute faite, si banalisée dans le monde médiatique qui est le nôtre, qu'on oublie sa part de pompe périphrastique, mais que le roman s'applique à motiver à sa façon, jouant avec elle, quitte à prendre à la lettre les deux termes qui la composent. Non pas journaliste, mais espionne sous contrainte, Constance, l'héroïne principale, est envoyée en mission spéciale aux différents sens possibles du mot « envoyé ». Non seulement enlevée en plein Paris par des agents secrets qui l'enferment dans un coffre, elle est expédiée, somme toute, comme un paquet volumineux, en une lointaine province pour y suivre un stage d'immersion préparatoire à sa future mission internationale. Voilà pour un sens possible, déjà quelque peu dévoyé, du titre « Une envoyée spéciale ». Quant à la mission elle-même, à laquelle elle est destinée, mission classique, puisqu'elle inscrit notre héroïne dans la lignée de Mata Hari, elle consiste à séduire et se laisser séduire par un hiérarque coréen du Nord, proche de Kim Jong-un, afin, ni plus ni moins, je cite, de déstabiliser la Corée du Nord. S'adonnant à cette ivresse occidentale coupable, le donjon asiatique en perdra d'ailleurs la tête, métaphoriquement d'abord, littéralement ensuite. Cette fonction séductrice de Constance plaide alors en faveur d'un second sens possible, plus gaillard, sinon trivial, de l'expression titre. Alors que dans les trois premiers quarts du roman, Constance, fidèle à son nom, adopte la plus absolue des chastetés, dans le dernier quart du roman, ce n'est pas moins de trois personnages de sexe opposé, deux en mission, le troisième en retour, que l'espionne malgré elle, tel un James Bond au féminin, s'envoie et réciproquement. Envoyé spécial, donc, et comment ? Mais, comme prédisposée par son prénom, l'héroïne, qui semble d'autant plus égale à elle-même, sinon inamovible, que ses aventures parisiennes, provinciales, internationales sont trépidantes, n'a pour autant pas changé de caractère. Elle a simplement changé de constance. Robor stator, dès le titre peut-être. De l'art du titre à celui de la composition, l'intrigue. Il est, dans l'œuvre de Jean Eschenoz, un même sens de l'ouverture et du resserrement des possibles romanesques. Divisée en trois parties, l'intrigue offre une lisibilité élémentaire. Enlèvement de Constance, entraînement par le vide de Constance, mission en Asie de Constance. Mais d'une partie et d'un chapitre à l'autre du livre, plusieurs réseaux de personnages associés à des séries de situations s'entremêlent sans que les liens logiques qui les raccordent soient de prime abord explicites, comme c'était déjà le cas dans Le Méridien de Greenwich, le premier roman, ou dans Lac. Cette unité retardée, entretenue par des effets de recoupement progressifs, constitue un suspense romanesque aussi affiné dans sa structure, le sens de l'agencement, et dans sa finition, l'art du détail, que le traitement des situations en elles-mêmes est outré. La subtilité du montage textuel tient à la manière progressive d'entretisser ces différents réseaux et d'abonder ces différents niveaux d'intrigue en distendant leur traitement narratif de manière à créer un effet initial d'embrouille, puis de les faire peu à peu se compléter de manière à susciter un semblant progressif de résolution. Soit, si l'on résume, grand 1, deux militaires. L'un, retraité, il ne travaille plus, et traité, il demeure chargé de mission secrète. L'autre, son homme de main, responsable l'un et l'autre de l'opération intitulée, je cite, « Service d'action, planification et mise en œuvre d'opérations clandestines » du ministère de la Défense. Deuxième réseau, les personnages du showbiz. Côté show, semi-ringard à l'étoile pâlie, côté bise, semi-requin à la fortune aléatoire, parmi lesquels certains tiennent lieu de figures romanesques centrales, ainsi l'ex-chanteur, ex-compagnon de Constance, et d'autres figures plus au second plan, comme celui du producteur Bling Bling, frère du précédent. Troisième réseau, des personnages collatéraux, comme les dégâts du même nom, qui gravitent dans l'orbe des réseaux précédents avec un degré d'autonomie relative, puisqu'ils sont dotés d'une micro-histoire les singularisant pour leur plus grand malheur. Alors, si on fait la liste, un repris de justice qui, innocent, accomplit sa peine avant de commettre son forfait, sa compagne, une coiffeuse à l'allure de boxeuse bouche qui ne finira pas le roman, et leur chien de salon, un beagle, qui lui le finira, mais mal. Reconverti d'abord en chien de garde, suite à quelques séances de rééducation, puis, suite à son séjour asiatique, reconverti, selon toute vraisemblance, en plat du jour pour restaurant coréen. C'est seulement au chapitre 21, soit à l'exact milieu d'un roman qui en comporte 42, que l'interconnexion se fait explicitement entre ces différents foyers de l'intrigue avant que cette intrigue n'émigre au chapitre 28 et jusqu'à l'antépénultième vers la cour et les sbires de Kim en Corée du Sud où se retrouve une partie des protagonistes. Alors, la multiplicité des pistes ouvertes et la multiplication des leurres, la stratégie de diversion ainsi adoptée par le narrateur au détriment de la narration elle-même, participe du grand jeu romanesque, tout comme l'art consommé de la cruauté drôlatique, avec les personnages comme figure burlesque et le narrateur comme une sorte d'histrion. Dans Envoyé spécial, Eschnos parfait cette figure de narrateur intrusif, variante hystérisée du narrateur omniscient, qu'il esquisse dans plusieurs romans antérieurs. Ce narrateur, tour à tour, s'identifie au récit ou s'en désolidarise par des commentaires intempestifs et un niveau de langue trivial, jurant avec la sophistication de l'écriture, tant macroformelle, la composition élaborée de l'intrigue, que microformelle, l'affinement d'un style, entre autres par la mise en rythme et en euphonie de la phrase. Alors je cite un exemple de ces intrusions du narrateur. Après une autre expédition à Bénévent-l'Abbaye pour acheter une nappe en papier, un dessert, du vin et du miroir pour mieux faire étinceler le bougeoir, Christian a préparé un nouveau bouquet de fleurs. Constance s'est mise en cuisine. Le dîner s'est vachement bien passé. On a beaucoup rigolé, pas mal picolé, on s'est raconté plein d'histoires. Exemple type de cette intrusion du narrateur qui, littéralement, s'invite sans prévenir à la table de ses personnages. La généralisation de cet effet suscite une tension entre la ligne romanesque élémentaire et une ligne énonciative seconde qui rompt l'adhésion du lecteur à l'histoire, mais pour mieux la relancer sur un autre plan métatextuel intrinsèquement comique. Robor stator, toujours, à l'énergie romanesque qui fait démarrer au quart de tour la machine à raconter des histoires comme d'autres avalent des kilomètres, France-Corée aller-retour, le coup de frein apporté en simultané par le narrateur lui-même, un narrateur d'opérette qui ne cesse de donner de la voix, un showman qui détourne en parfait cabot l'attention du lecteur, déployant des modes d'intervention éclectiques, du commentaire le plus anecdotique, côté café du commerce, au didactisme le plus consciencieux, côté encyclopédie universalis. Mais, si plaisant soit cet art formel, par la disposition qu'il propose sa matière romanesque, comme un double jeu à la fois cérébral et spirituel, il ne relève pas de la seule virtuosité stylistique. Cette puissance de formalisation romanesque, ici comme ailleurs, est l'une des grandes caractéristiques de Jean Echenoz et de son œuvre, qui s'inscrit par là même dans la lignée des grands écrivains de la modernité. Ainsi, le lecteur est-il convié au jeu, à la grande distribution de cartes romanesques, avec laquelle une nouvelle donne étant constituée dans la décontraction, la partie peut commencer en toute connaissance des règles. Rien de tel qu'un vrai faux roman d'espionnage scandé par quelques scènes d'opéra bouffe pour entretenir l'alacrité critique du joueur que le lecteur, nous sommes. Ce roman fait sens en cela qu'il est tout d'abord motivé par une contrainte de représentation inhérente à l'intrigue elle-même et à ses cibles. Certains milieux visés par l'écrivain. Dans ce roman, l'intrigue conjoint deux univers apparemment distincts, celui du showbiz, de la variété commerciale la plus sommaire, alors le tube one-shot, quoique planétaire, à la Patrick Hernandez, nommément référé, et un autre univers, celui d'une dictature totalitaire perpétuant au XXIe siècle les pires modèles du XXe en la matière, la Corée du Nord de Kim Jong-un. Certes, face à la férule de cette dernière, la dictature du tube, image d'un certain type de mondialisation par le creux, semble bénigne. Elle ne tyrannise, somme toute, que des tympans. Mais ces deux univers ont en commun, chacun à son degré, quoique l'un et l'autre par interaction, de constituer déjà, dans la réalité, la mieux référée des caricatures, dans un cas de chanson, c'est-à-dire d'art, dans un autre de régime, c'est-à-dire de pouvoir. Dans les deux cas, avec un facteur accru de détérioration, c'est la réalité qui singe la fiction, que celle-ci soit le produit de la variété industrielle, les hits du XXIe siècle singeant les tubes du XXe, singeant eux-mêmes les scies du XIXe, ou qu'elle soit issue de la légende historique, Kim Jong-un singeant son grand-père Kim Il-sung, lequel singeait les grands tyrans de l'ère totalitaire, lesquels singeaient les grands despotes, se succédant avec les moyens du bord depuis l'Antiquité. De même que James Bond, des services secrets britanniques, affrontait l'empire du mal soviétique, Constance, manipulée par un général français honoraire, affronte l'enclave du mal asiatique, entre guillemets, dans un récit où se recoupent fiction géopolitique et fiction de genre, celle-ci sursingeant celle-là pour lui être le plus parfaitement fidèle dans cet art saisissant qu'est celui de la grimace. Depuis James Bond, en effet, la terreur a changé de référent géopolitique, le rideau de fer cédait la place aux petites chapes de plomb ultranationalistes disséminées ici ou là sur la planète, la Corée du Sud étant, comme le roman s'en fait le consignateur dûment documenté dans son dernier quart, l'un des pays les mieux lotis en la matière. Ainsi, ce roman développe un certain nombre de visées, alors, au sens premier du terme, ce qu'il situe littéralement dans son viseur, soit à la manière fugitive d'un photogramme, soit pour y être pointé à la façon plus conséquente d'un drame qui se jouerait en profondeur des choses. Pour être exposé, ces visées ne sont jamais récupérées par quelques discours d'intention, libre au lecteur de les développer, ou au contraire, de les laisser flotter à la surface du texte et de sa propre conscience. Ainsi, des instantanés descriptifs, saisissant au hasard d'une phrase des détails d'époque, de ceux qu'on ne retient pas, alors même qu'ils dessinent, par leur somme, les contours matériels du monde dans lequel on vit, agissent sur nos sens et finalement influent inconsciemment sur nos comportements. Le décompte, par exemple, le décompte électronique des minutes séparant une rame de métro d'une autre sur les petits écrans des quais. Décompte, si l'on y réfléchit bien, aussi redoutable que la minuterie du temps jadis scandée par l'horloge baudelairienne. Ou encore, ces voix féminines annonçant les noms de stations sur certaines lignes comme une maman, tantôt prévenante, tantôt grondante, infantilisant le voyageur. Souci minuscule, sans doute, mais on se souvient que Eschnauz recensa en pionnier dans ses romans antérieurs l'apparition des pictogrammes pour voitures sur les sols des parkings, l'apparition des digicodes ou encore celle du babyphone. Tout ce qui rassure, tout un petit arsenal de sécurité qui ne se nomme pas, mais sous couvert de progrès technologiques, entre fléchage et flicage, en dit long sur certaines névroses de société. Cette veine culmine ici, bien sûr, avec le recensement des multiples pièces de l'arsenal de défense, transformant le no man's land séparant les deux Corées en un véritable terrain piégé high-tech. Encore ce réflexe de la consignation ethnographique voisine-t-il avec un regard hérité de la sociologie politique qui consiste, dans ce roman comme dans d'autres, à jouer sans y paraître des différents arrondissements de la capitale et des différentes banlieues comme d'un révélateur des richesses contrastées ou des pauvretés de partage qui sont celles de notre société. C'était déjà le cas dans « Je m'en vais ». Cette distinction s'inscrit dans une mise en perspective internationale offerte par l'expédition en Corée du Nord, mais un tiers paramètre entre en ligne de compte. Plus rare dans l'œuvre, la France des campagnes, tout particulièrement le département de la Creuse, lieu de stage, du stage préparatoire à la mission de Constante en Corée du Nord. Association plaisante pour le lecteur, sauf bien sûr s'il est creusois, qui peut se comprendre à la fois comme un méchant calembour. Dès son arrivée à l'aéroport de Pyongyang, Constance n'est-elle pas conduite à son hôtel en limousine ? Ou encore, comme une hyperbole politiquement incorrecte, quoique pas nécessairement fausse. Entre la Creuse et la Corée du Nord, il est un air lointain de ressemblance sur fond de déréliction économique et culturelle. Celui, ou plutôt celle, Constance, qui survit à l'une, la Creuse, survivra à l'autre, la Corée, d'où le stage en immersion de Constance dans cette province française. Le narrateur le rappelle, à sa manière, toute informative. Avant-dernière dans le classement national des densités de population, la Creuse compte de vastes pans inoccupés, voire dans le sud, quasiment désert. Narrateur quelque peu alarmiste, je cite toujours, « En forêt, quelques bêtes sauvages, loups sans affect, cerfs ombrageux, sourcilleux sangliers, qui cherchent elles aussi de quoi manger, vous-même à l'occasion, il est d'autant plus rare de croiser une présence humaine que la région se dépeuple à vue d'œil. » Tout cela est fort drôle, c'est-à-dire très inquiétant. À chaque pays, son propre degré d'actualité préhistorique. N'est-il pas, à défaut de deux France comme il est deux Corées, une France à deux vitesses ? L'une dont les grandes villes dynamiques sont ouvertes sur l'Europe et sur le monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. L'autre, enclavée dans des campagnes dont les villes et villages se vident, une France du centre qui dépérit à l'image de cette Creuse chantée par Pierre Michon ou de ce Cantal illustré par Pierre Bergougnoux, l'une et l'autre de ces provinces actées comme pour mémoire par leur chantre mélancolique. Le hasard romanesque fait plutôt bien les choses. La première partie du séjour creusois de Constance se situe dans une maison qui est le portrait calque de la maison natale de l'un de ses écrivains, Pierre Michon, lequel, comme pour parfaire l'analogie, apparaît ex abrupto sur l'écran de télévision de la chambre de Constance le soir même de son arrivée dans un hôtel de Corée. L'un des protagonistes du roman se voit par ailleurs attribuer le nom de code d'Objat, O-B-J-A-T, nom qui se prête au jeu poétique et onomastique, un nom pongien, pourrait-on dire, mais sans que le narrateur s'en vante, un nom qui est aussi celui d'une commune du département de la Corrèze, Objat, arrondissement de Brive-la-Gaillarde, ville natale de l'autre écrivain, Pierre Bergougnoux. Alors, en commun à Jean Echenoz et Pierre Michon, et c'est par là que j'aimerais conclure, il est une commune fascination pour les personnages féminins. Après Victoire, l'héroïne d'un an, 1997, et figurante en 1999 de Je m'en vais, première grande figure de la SDF dans le roman contemporain, du moins en France, après Gloire, l'héroïne des Grandes Blondes, ancienne star de variété devenue serial killer et figurante, par citation interposée, dans Envoyé spécial. Voici donc Constance. Soumise comme un hologramme aux recompositions des épisodes romanesques les plus torves, mais aussi insaisissable, irréductible à tout état de conscience intentionnelle, fluctuant et dérivant à la surface d'un récit qui l'accompagne plus qu'il ne la détermine, tantôt au premier plan, tantôt hors champ, Constance, quels que soient ses avatars fictionnels, est avant tout une figure romanesque, une drôle de muse, comme décolorée au regard des multiples personnages hauts en couleur, femmes, hommes, animaux, qui font diversion, qui sont toujours au second plan du roman, même quand il semble occuper le devant de la scène. C'est le diaphane qui impressionne la pellicule chez Echenoz. Le bariolage surligné des personnages mineurs et la multiplication des péripéties les plus effrénées suscitent, par contraste, cet effet de matité depuis lequel le personnage de Constance se compose, comme depuis une zone de non-dit ou de non-voix, à l'image de cette non-zone que traversent les personnages pour fuir la Corée du Nord. Mais parce que Constance parle peu, elle ne dit jamais, la fin le montre, son dernier mot. Une figure de la littérature, alors aussi, en survivante, si ballottée d'avatars sans caractère en aventure sans lendemain, qu'on a déjà pu parfois la décréter perdue, mais qui ressurgit toujours, ici ou là, en Creuse, par exemple, à la table de Pierre Michon, l'écrivain ami qui ne cesse de célébrer, dans un même geste d'écriture, des figures de femmes désirées et la langue de la célébration elle-même, à l'image peut-être de Jean Echenoz. Je vous remercie de votre attention.
Je ne sais pas si le micro marche. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je pensais en vous écoutant, entre autres, à cette parole qui a été répétée dans l'exposition, qui est donnée notamment par Jérôme Lindon quand il dit à Echenoz, c'est bizarre, dans votre œuvre, tout va par deux. Et je pense que votre étude a ajouté à la longue liste de ces paires étranges, celle de deux pays, dont on ne s'était pas aperçu d'ailleurs qu'elles avaient les mêmes consonnes, c'est-à-dire la Creuse et la Corée du Sud. Alors bravo pour cette étude. Je pense que nous reviendrons tout à l'heure sur les rapports entre le sérieux et le bouffe, qui sont vraiment très problématiques. Mais pour l'instant, je n'en dis pas davantage, sinon grand merci. Nous allons passer la parole donc à Agnès, qui va vous parler, qui va enchaîner avec l'exposé de Stéphane. Je vous laisse le soin de découvrir l'objet de son exposé.
Alors, nous allons nous intéresser aux fictions biographiques de Jean Echenoz, sous ce titre-là, « Insoutenable légèreté de la vie et légèreté délectable de la prose ». Alors, en nous limitant au cycle des trois fictions biographiques que forment les romans de Ravel, Courir et Des éclairs, j'aimerais proposer sous forme d'inventaire une collection d'objets révélateurs comme autant de pièces détachées structurant un imaginaire singulier. Les objets, d'ailleurs, ces trois vies en regorgent, signalant déjà un intérêt particulier du biographe. Par exemple, ce sont ces petits jouets multicolores du genre que Ravel aime bien, petites choses, miniatures en tout genre qui encombrent sa maison de Montfort-l'Amaury. Ou bien, ce sont ces objets extravagants, ces appareils jamais vus qui environnent les spectacles scientifiques de Grégoire, telles ces bobines solénoïdales, voire encore, parmi le crépitement des éclairs, ces petits objets en cuivre, sphériques ou ovoïdes, qui tournent tout seuls à grande vitesse en inversant régulièrement leur sens de rotation. Alors, notre collection s'attachera quant à elle aux objets spécifiques de l'écrivain, à ces mots surprenants, inattendus, rares, inusité qui épingle la langue, qui font écart, qui attire l'œil, qui sollicite l'oreille, bref, qui crépite dans la phrase du romancier. Voici donc sous forme d'abécédaire, c'est un petit abécédaire que je vous propose, ces objets lexicaux comme autant de rouages de la machine romanesque d'Echenoz qui exhibe donc l'insoutenable légèreté de la vie dans la légèreté délectable de la prose. Alors, A comme assez dit. Variété particulière de mélancolie qui saisit nombre de personnages d'Echenoz et notamment Ravel, dépressif, désœuvré, démuni de projet. La sédie est un mal de l'âme profond, un état spirituel d'atonie, de dégoût, dans une vie en proie à l'ennui sans bien savoir que faire de soi. Fébrile, elle est la variante oxymorique de ce mal-être qui frappe tous les personnages dans une vie curieusement écartelée entre l'urgence et la lenteur, entre l'inertie et l'agitation. Bref, l'assédie fébrile est le régime inconfortable de la biographie echenozienne. Alors, A aussi comme amniotique. La naissance constitue l'incipit canonique de toute biographie. Le bain tiède de Ravel en fait fonction avec sa bonne atmosphère amniotique, d'où il est bien fâcheux de s'extraire pour l'air brutal d'une maison mal chauffée. Tout de suite d'ailleurs, le temps presse et tout va très vite pour Ravel. Au début du roman, je cite, « Il lui reste aujourd'hui pile 10 ans à vivre ». Alors, cabèche. Toute naissance, en effet, comporte son fatal second terme. Je cite des éclairs, « On se retrouve doté d'un certain âge sans avoir bien compris comment, même si, comme Grégoire, on consulte sa montre tout le temps. Ravel, qui ressemble déjà à son masque mortuaire, l'exprime très lucidement, citation, « Je sais bien qu'on va me couper cabèche. » Cytosérum. Alors, entre ces deux termes, la biographie dessine le trajet d'une inexorable déchéance. Citation, « Il arrive aussi chez l'homme que rien n'aille plus, que l'état des lieux se déglingue. » Chez le génial Grégoire, cette rouille manifeste ses effets par toutes sortes de ralentissements, craquements, courbatures, négligences et approximations. Chez le bondissant Émile, la mécanique cède d'abord dans les détails jusqu'à ce que ce soit tout son corps qui se désorganise. Il n'offre plus alors que le spectacle d'une foulée brisée, mal équarrie, incohérente. Ravel, lui, recours aux stimulants pour soutenir un organisme épuisé. Injection massive de cytosérum et de cacodilate, ou bien il recourt aux barbiturique, je cite l'énumération, laudanum, véronal, nambutal, prominal, destiné à favoriser, citation, le surgissement de visions hypnagogiques. Alors c'est encore comme châtelaine, la chaîne de montre fait partie de l'équipement de l'élégant Ravel aux favoris assortis de monocle et châtelaine. Émile est assujetti au chronomètre. Grégoire, qui est pourtant doté de l'horloge absolue, est obsédé par le temps. Dès l'enfance, d'ailleurs, il s'occupe des montres, horloges et pendules, qu'il parvient bientôt à désosser puis à rassembler en un instant, les yeux bandés. Or, ce temps qui gouverne impitoyablement toute biographie est le lieu d'un insurmontable paradoxe. Citation, on ne se rend jamais compte à quel point c'est rapide, alors que les journées traînent en longueur et que les après-midi sont interminables. Diabolo. Que faire donc pour tuer le temps, ce temps pourtant déjà mort qui se traîne au long de journées vides? Alors le diabolo est un des passe-temps favoris de Ravel. L'innocent jouet n'a rien oublié de son origine diabolique. Son tourniquet absurde reproduit à l'infini la figure haïe du cercle, c'est-à-dire de la clôture dont tous les héros souffrent. C'est la prison réelle du régime communiste qui contraint le 12 Émile, prison corporelle de Grégor, je cite, qu'il est donc fatigant d'être à l'intérieur de soi toujours, sans moyen d'en sortir, considérer toujours le monde depuis cette enveloppe où on est enfermé. Quant à Ravel, ce sont ses idées qui lui semblent toujours rester en prison dans son cerveau. Le diabolique diabolo est aussi l'image d'un temps circulaire, répétitif, figure de l'éternel et déprimant retour du même. À d'infimes variations près dans Ravel, la désolante ritournelle revient ponctuer le récit et scander à l'identique les jours du musicien. Pas moins de 5 fois, on trouve la formule « le soleil couvert » ou « voilé » ou « pur » ou « géant » contient un soleil pâle ou flou ou glacé ou pur. Répétition déprimante que corrigent certains effets comiques de rime. Par exemple, ces chapeaux foncés enfoncés dans les rues sinistres ou sur le pont du France, ce triste constat, nulle tâche, nulle attache. Élongé. Alors ce terme de marine concerne les câbles et les cordages. Ailleurs, le mot est rare, qui signifie distendu, étiré. Telles sont les journées de Ravel sur le France. Elles ne semblent pas seulement, je cite, plus élongées qu'à terre, elles le sont réellement. Vu la répartition du décalage horaire sur le temps de la traversée, elles font aisément leurs 25 heures. C'est que pour échapper à l'ennui lié à l'inertie, il faut partir. Déménageons. La brusque résolution de Grégor est le mot d'ordre de tous les personnages, variante du titre programmatique « Je m'en vais ». Le roman géographique eschnosien obéit à la nécessité physique du déplacement. Funiculaire. Émile s'y emploie fort au déplacement, dont toute la biographie se concentre en cet infinitif à valeur injonctive, courir. Prédestination. Sa naissance auprès de la ville d'Ostrava semble déterminante, puisqu'y prospèrent les deux industries de Tatra et Bata, qui, je cite, proposent toutes deux un moyen d'avancer, la voiture ou la chaussure. Bientôt, celui qu'on surnomme la locomotive tchèque pulvérise tous les records, s'envole, se transforme en funiculaire et gagne, évidemment. H. Hispano ou Hotchkiss. C'est dire que paquebot, avion, taxi, train, les moyens de locomotion sont divers, nombreux, bateaux, etc. Mention spéciale faite aux belles automobiles dont les noms font toujours rêver. Hispano ou Hotchkiss, Panhard Levasseur ou Rosengart. Une narration dynamique accompagne des personnages en perpétuel mouvement, mouvement dont l'inanité est soulignée, comme dans la longue divagation américaine de Ravel, itinéraire aberrant, parcours aussi déconcertant que celui d'une mouche dans l'air, et qu'il va lui faire effectuer du glacial au tropical, des allers-retours absurdes, escales incertaines, dérivations incongrues. O. Omnibus hippomobile. Alors, c'est un autre type de véhicule dénombré par Grégor dans les rues de Brooklyn et illustrant une autre façon de tuer le temps, compter tout ce qui se présente. Cette manie du dénombrement, vaine tentative de conjurer le néant en fragmentant une insupportable durée, est une absorbante besogne voué à l'échec, évidemment, si l'escalator existait, Grégor compterait ses marches. Orane de Mazis. Cette légèreté insoutenable de la vie tient au vide des personnages, dont le peu de réalité est souligné par leur ressemblance avec des acteurs complètement oubliés et dont ils sont les lointains reflets. Par exemple, Hélène Jourdan-Morange ressemble, je cite, « un peu à Oran de Mazis, pour ceux qui se souviennent d'elle ». Mais les Axelrod, amis de Grégor, rappellent l'un un petit peu Lionel Barrymore, tandis que l'autre offre un mélange des deux sœurs Guiche. Ou bien alors le personnage, privé d'être, est assimilé à un automate. C'est le cas d'Émile. Tout son corps semble être ainsi une mécanique détraquée, un automate livide, déréglé. Ravel a toujours adoré les automates. Et bien avant sa disparition, il est déjà mort, dit le texte, fantôme, toujours aussi bien habillé. En somme, c'est bien le néant qui constitue l'homme. Perpetuum mobile. C'est l'intitulé du dernier mouvement de la sonate de Ravel de 1927 et cet intitulé pourrait servir d'emblème à l'œuvre entière d'Eschnauz. Contre l'inertie de la vie, qui n'est plus qu'une longue salle d'attente, le roman adopte l'allure véloce, obéit à une logique de l'urgence. La vitesse narrative recourt à divers procédés comme l'ellipse, les abrégeons, bref, passons, émaillent le récit. Ne nous attardons pas. Il s'agit donc de jouer cette partition sur un tempo vif, à quoi contribuent les soustractions, litotes, syncopes, ruptures, ou encore ces esquisses rapides, cocasses, qui juxtaposent hâtivement les éléments. Par exemple, voici Ravel, alors, vêtu d'une toge, coiffé d'une toque, en docteur honoris causa de l'université d'Oxford. Voici son studio de Levallois, dans un style mi-paquebot, mi-dentiste. Mi-paquebot, mi-dentiste. Le voilà encore qui conduit un énorme camion militaire sur mulot sur un éléphant. Alors, P comme Pierce Arrow. Alors, d'autres procédés sont destinés à faire diversion, à divertir au sens propre, c'est-à-dire à détourner l'ennui de ces biographies, à y introduire comme une pause, comme un répit. C'est le cas de certaines apparitions à peine esquissées, apparemment gratuites, comme cette longue Pierce Arrow noire décapotable, bleue, ou bien s'engouffrant dans la bien-aimée rue de Rome, cette salmone, une longue Salmson Val 3, bicolore et profilée comme un escarpin de souteneur. Ces évocations assurent à la fois un effet de réel, en même temps qu'elles proposent autant de distractions et d'échapper dans la rêverie. Il faudrait ainsi citer dans Des éclairs l'excursus merveilleux constitué par, je cite, « la belle décapotable fusiforme de marque Duesenberg à moteur 8 cylindres en ligne, torpedo à flanc vert et capot bleu, larges ailes brunes, protégeant des roues aux pneus immaculés, aux jantes et aux rayons jaunes vifs. » Mais les sons aussi s'en mêlent pour animer de petits tableaux qui, sans eux, ne mériteraient aucune mention. C'est le cas des repas solitaires de Ravel, je cite, « son dentier produit un bruit de castagnette ou de fusil mitrailleur qui se répercute dans la pièce étroite. » Ailleurs, nous trouvons « soli, tutti, contrepoint », c'est le combat d'artillerie entre les armées allemandes et russes dans la Tchécoslovaquie occupée. R. Ritz à vapeur. L'énumération aussi remplit cette fonction de divertissement et de séduction. Ritz ou Carlton à vapeur, le France la procure, tant son luxe, de même que le lexique pour en rendre compte ébloui. Voici la cabine de Ravel. C'est un appartement de luxe à boiserie composite, sycomores et chênes de Hongrie, érable amarante ou gris moucheté, tenture en chintz, mobilier citronnier palissandre et double salle de bain vermeille sur brocatelle. D'autres développent à plaisir un catalogue aussi précis que loufoque, où la verve dans l'euphorie des rythmes et des sonorités s'alimente d'elle-même et jubile. Ainsi en va-t-il du pigeon aimé de Grégor, d'Eschnauz, du narrateur en tout cas, le pigeon, je cite, « coire, fourbe, sale, fade, sot, veule, vide, vil, vain, aussi sensuel qu'un rat, aussi racé qu'un thon, moins élégant qu'un ver, encore plus con que le catoblépas. Alors, hommage indirect à Flaubert, dont la Tentation de Saint-Antoine partage ce jugement sévère sur le catoblépas. Ailleurs, les allusions littéraires se bousculent jusqu'au burlesque. Par exemple, s'agissant de l'étrange protégé de Grégoire, je cite « À l'instar de Madame de Beaumont, de Marguerite Gautier, Germinie Lacerteux, Claudia, Fantine, Francine alias Mimi et autres héroïnes classiques, hélas, il faut admettre que la pigeonne présente tous les symptômes de la tuberculose. » Sconce. Manteau de sconce, smoking, chapeau melon, huit reflets, chapeau claque, panama, constat, canotier, les personnages disposent de garde-robes mirobolantes. Le dandysme correspond à cette volonté de séduction et à l'éviction résolue de tout pathos, à cette manière froide, dégagée de tout affect, que vise la prose distanciée des schnauzes. Les personnages cultivent donc cette politesse stricte, sèche, d'élégance précieuse et raffinée, où ne manque ni les gants beurre frais, ni le jonc à manches recourbées. Jonc qui permet le bref épanouissement sous forme de maxime du code moral du dandy, je cite, « La canne est à la main ce que le sourire est aux lèvres ». Sulfure. L'une de ces énumérations constitue même une petite mise en abîme du roman, comme un de ces jouets mécaniques sophistiqués qui prolifèrent dans la maison de Ravel. Je cite, « Statuettes en bibelots, boîtes à musique, jouets à ressorts, un chinois en bois tire la langue à la demande, un rossignol mécanique, gros comme une bille, bat des ailes, en chantant dès qu'on le souhaite, un voilier tangue à volonté sur des vagues en carton, sulfures et ludions en carafe, tulipes de verre filé, roses à pétales articulés, boîtes en cristal coloré d'Autriche et modèles réduits d'ottomanes en porcelaine dentelée. » Toscanini. Ces mots rutilants sur l'ennui de la vie sont finalement comparables à des notes d'agrément. Les fioritures et les frislis, les appoggiatures et gruppetti, dont Wittgenstein orne la partition de Ravel, car franchement, ça ne sonne pas. Autant d'indications métatextuelles dont le romancier interprète lui-même sa propre partition, bien sûr accélérando à la façon de Toscanini. U comme usine du boléro, elle est l'une des allégories possibles de l'écriture des schnauzes qui livre dans Ravel son autoportrait. Le musicien, comme lui, aime les machines. Je cite, « Les rouages plus que les flots lui donnent des idées rythmiques. Il aime les usines, les symphonies de courroies, de sifflets et de cours de marteau. C'est une fabrique sur le chemin du Vésinet qui l'inspire. Travail à la chaîne, répétition, juste du rythme et de l'arrangement, voilà l'usine du boléro, voilà le roman schnauzien. » Et nous finirons avec Zatopek, autoportrait enfin en coureur de fond, dont le nom claque en trois syllabes mécaniques, Zatopek, qui commence comme finit celui des schnauzes et qui délivre tout un petit art poétique, et j'en résiste pas au plaisir de finir par là, valse impitoyable à trois temps, bruit de galop, vrombissement de turbine, cliquetis de bielles ou de soupapes scandé par le K final, précédé par le Z initial qui va déjà très vite. On fait zzz et ça va tout de suite vite, comme si cette consonne était un starter. Sans compter que cette machine est lubrifiée par un prénom fluide. La burette d'huile Émile est fournie avec le moteur Zatopek. Merci.
Bien, merci Agnès de cette approche très originale et très, très drôle qui offrait de nombreux contrepoints à l'exposition, soit en écho, soit pour compléter ce qu'on n'a pas eu le temps de mettre. Par exemple, dans la troisième partie, on a fait un panneau sur les lieux, on a fait un panneau sur les personnages, on n'a pas eu de place pour faire les objets, mais là vous les avez vus défiler, n'est-ce pas, en grand nombre. Merci beaucoup. Par parenthèse aussi, juste après je passe la parole à Stéphane, tu as évoqué les pigeons. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore vu l'exposition, si vous la visitez, vous ferez très attention à la fin du parcours, au tapuscrit extrait d'Éclair, qui montre le travail incroyable d'Eschnoz sur la liste d'adjectifs caractérisant les pigeons qu'a lu Agnès. C'est une liste qui semble aller de soi. Vous verrez le travail sur le texte que cela a demandé à Eschnoz. C'est très, 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 très instructif. Je passe sans plus attendre. Ah oui, alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Oran de Mazis, malgré votre impatience, vous attendez un tout petit peu, je vous dirai ça à l'entracte. Je passe la parole à Stéphane.
Voilà, merci beaucoup pour cette invitation à parler d'Eschnoz. Mon propos est très simple. Je vais montrer que dans Ravel, Eschnoz a écrit un petit traité de la séduction littéraire, un art poétique, donc, par le truchement du musicien Ravel, d'où mon titre, « Séduire, disent-ils, Jean Ravel et Maurice Eschnoz ». Alors, Ravel, le récit, commence dans une salle de bain. D'abord parce que Ravel est l'exact anagramme du verbe laver. Ensuite parce que Toussaint a défini la salle de bain comme le lieu par excellence du refus du monde et que Eschnoz, lui, veut écrire la biographie d'un artiste ouvert sur le monde. Dès le début, Agnès l'a rappelé, dès le début de Ravel, il est question d'atmosphère amniotique. À quoi bon, en effet, sortir de la salle de bain ? À quoi bon séduire, si ce n'est pour oublier, peut-être, la mélancolie dont la perte de maman est l'emblème par excellence au XXe siècle. Il y a donc de l'inconsolable dans la séduction et il y a de l'inconsolé dans le séducteur. Ce sera mon hypothèse. Et pour l'étayer, je vous propose deux temps. Premier temps, une petite enquête sur le verbe séduire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en réalité, il suffit de regarder l'image. Superbe. Et puis ensuite, comment lire Ravel au prisme de la séduction ? Alors, dans la langue, séduire serait un procès qui marquerait une cause et une condition. Et plaire, le synonyme, serait le résultat visé, aléatoire, on atteint ou on loupe son coup. Or, on peut séduire sans plaire, ça arrive tous les jours, heureusement ou malheureusement, mais il est plus difficile de penser l'inverse, c'est-à-dire de plaire sans séduire. Et c'est pourtant à cette deuxième hypothèse que je m'attacherai, à cette intransitivité, on veut plaire sans séduire, ou on veut séduire sans plaire. Que reste-t-il en effet de la séduction quand elle ne cherche pas à plaire, qu'elle prend même le risque de déplaire, ou qu'elle plaît sans paraître le vouloir. Et voyez, subtilement, on est passé du régime du commerce qui implique la dépendance ou le rapport de force, séduire à tout prix, plaire à tout prix, à celui de l'art qui implique une forme d'indépendance. Alors, je précise, séduire est fondé sur l'association d'un rythme et d'un éthos. Du point de vue du rythme, le séducteur est celui qui sait alterner, dès lors qu'il paraît, l'art de décevoir et l'art de combler. Et je crois que Eschnoz est très très fort pour jouer sur ces alternances. Deuxième chose, du point de vue de l'éthos, je dirais qu'un être séduit parce qu'il ou elle apparaît comme libre de ses mouvements, qu'il nous fait immédiatement désirer cette aisance, cette grâce. On a soudain, quand on voit quelqu'un de séduisant, l'impression qu'on a la liberté en acte. Et à cette liberté se rattache un faisceau de vertus ambiguës, troublantes, parce que ce ne sont pas des vertus qui sont utiles au bien commun, que ce ne sont pas des vertus, j'allais dire, qui ont nécessité une ascèse, un effort, ce sont des vertus sensibles, ce sont des vertus singulières, ce sont des vertus dépourvues d'idéalité et d'universalité. Bref, ce sont les vertus d'un être à la fois libre et égoïste qui séduit précisément par sa propension à se préférer et à vous englober dans le tourbillon de cette préférence qui est à la fois irréfutable et en même temps vague. Elle est très injustifiable et en même temps elle est très perceptible. Et quelles sont donc les vertus de cette liberté égoïste et séduisante à la fois ? Eh bien, je dirais la confiance en soi, mais dans la pudeur. Et quand je dis confiance en soi, je veux dire une confiance en soi sans attachement névrotique ou déraisonnable au soi ou à l'ego. Quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui est très égotiste, mais qui est en même temps très détaché de lui. Et la séduction, de ce point de vue-là, est une sorte de pari pascalien, après tout, Pascal était un grand séducteur, qui mise sur l'égotisme contre l'altruisme, sur la légèreté contre la profondeur, sur le petit ou le détail contre le grand, sur la circonstance contre l'idéal. Et je crois que la séduction nous trouble parce qu'en quelque sorte, elle milite, sans grand mot ni grand geste, pour une désinhibition de l'individu égoïste et libre à la fois, c'est-à-dire de l'individu immoral. Elle a donc toutes les vertus, la séduction, pas tout à fait, parce qu'elle ne comble peut-être pas en nous ce désir d'infini dans la jouissance, et on verra dans Ravel combien Eschnose aime à régler son compte au prestige de l'infini, au prestige romantique de l'infini. Et on verra aussi qu'entre la séduction et l'amour, il n'y a pas de différence de degré, mais bien une différence de nature, car la séduction opère au défaut même de l'amour. Alors maintenant, je parle de Ravel, après avoir brossé un petit peu le portrait de la notion, pour dire quoi ? Pour dire d'abord que séduire n'est pas aimer. Je cite, « Il pourrait peut-être essayer de dormir avec quelqu'un, quand même. Mais non, rien à faire. On ne sache pas qu'il est amoureusement aimé, homme ou femme, quiconque. » C'est très joli, hein, cette expression « amoureusement aimé hein, ». Et cette idée que dormir avec quelqu'un, c'est peut-être la plus surprenante des manifestations de l'amour. En tout cas, une manifestation plus surprenante que le banal « faire l'amour » dont on nous rebat les oreilles. Ensuite, je pourrais évidemment souligner, et Agnès l'a fait pour moi, donc je passe, tout ce qui rapproche Ravel d'un banal dandy. Après tout, une salle de bain, c'est un laboratoire de la séduction. Mais je voudrais plutôt m'intéresser, pour comprendre ce qu'est la séduction selon Ravel et Eschnose, à la confrontation de Ravel et de Gershwin. Vous en rappelez peut-être, Ravel, lors de sa tournée triomphale aux États-Unis, tient à revoir Gershwin, je cite, « pour l'écouter jouer The Man I Love », l'autre évidemment s'exécute en mettant toute la gomme, pour le prier après le dîner de lui donner des cours de composition. Mais Ravel refuse net. Ravel 1, Gershwin 0. Il aurait mieux valu demander à Ravel des cours de séduction, car sur ce terrain, le compositeur est imbattable. Règle numéro 1, ne jamais se satisfaire d'être un simple exécutant qui fait ce qu'on lui demande, si l'on veut séduire. Règle numéro 2, ne jamais mettre la gomme, quelles que soient les circonstances. Règle numéro 3, ne jamais feindre de donner quelque chose pour mieux recevoir autre chose. La manœuvre est basse, les gens intelligents ne s'y trompent jamais, on perd tout crédit. Ravel, c'est donc de ce point de vue-là l'anti-Gershwin. Je cite, « qu'il gouverne avec tant de maladresse un piano s'explique aussi par la paresse dont il ne s'est jamais défait depuis l'enfance. » Qui dira la séduction des paresseux ? Lui, si léger, n'a pas envie de se fatiguer sur un instrument tellement lourd. Il sait bien que l'exécution d'un morceau, surtout lent, requiert une dépense de force physique dont il aime mieux se dispenser. Mieux vaut donc la désinvolture qu'il a récemment poussée au point de composer l'accompagnement de Ronsard à son âme pour la seule main gauche, lui-même ayant prévu de fumer avec la droite. Bref, il joue mal, mais enfin bon, il joue. Il sait qu'il est le contraire d'un virtuose, mais comme personne n'y entend rien, il s'en sort tout à fait bien. Je crois qu'on est là au cœur de la séduction, à ne pas vouloir en imposer, ne pas vouloir faire le virtuose, ne pas chercher non plus à cacher ses défauts, alterner un mélange d'aveuglement, personne n'y entend rien alors que tout le monde se rend compte qu'il joue mal, et la lucidité, bref, il joue mal. En vue de garder le plus de marge de manœuvre possible. Autrement dit, Gershwin et le lecteur n'ont qu'à en prendre de la graine. Pour séduire, l'essentiel est de se foutre absolument de l'opinion des autres, qui est une chose vaine, l'opinion des autres, surtout quand elle porte sur quelque chose d'encore plus vain qu'une opinion, c'est-à-dire une image. Or, vous savez que tous les gens qui ne sont pas séduisants passent leur temps à se soucier de leur face, se soucier d'eux-mêmes, et ils nous épuisent pour ces raisons-là. Alors, je cite, « Il en devient un peu nonchalant, il, c'est Ravel, il en devient un peu nonchalant, de plus en plus désinvolte dans sa façon déjà fragile de toucher le piano, il pense que cela ne se voit pas, d'ailleurs, il n'y pense pas, or cela s'est vu, il ne le sait pas, le saurait-il d'ailleurs qu'il s'en foutrait ?» Me direz-vous, est-ce que Ravel est vraiment un séducteur? Je pense que oui. J'avais plusieurs preuves à donner, mais j'en retiens qu'une, et que je dédie à Bruno, parce qu'on a eu des discussions sur un roman qui s'appelle 14. Et que Bruno a été le président du CAPES, et que c'est lui qui a introduit Eschnoz dans la bibliothèque du CAPES, par le biais de ce roman 14. Donc c'est un récit que Eschnoz écrit, bien sûr, ou son narrateur rapporte, mais c'est Ravel qui parle dans un savoureux mélange des voix. Un jour, son engin en panne, il s'était retrouvé lui-même en rase campagne, où il avait vécu tout seul toute une semaine en Robinson. Il avait profité de l'occasion pour transcrire quelques chants d'oiseaux. Ceci de Guerlas, on est en 14. Ceci de Guerlas ayant fini par faire comme si de rien n'était, ne plus interrompre leur tri à la moindre explosion, ne plus se formaliser du roulement incessant des proches détonations. Ce récit ayant recueilli un beau succès auprès des convives, etc. Donc, vous voyez, Ravel racontant sa guerre de 14 sur le paquebot séduit son auditoire. Et c'est très joli parce que nous, aujourd'hui, nous voyons que c'est en quelque sorte une mise en abîme anticipée du roman 14. Et nous voyons aussi que c'est en quelque sorte un passage très réflexif parce que les oiseaux, ces espèces d'animaux romantiques par excellence, ce symbole du lyrisme, eh bien, ils deviennent ici l'expression même de l'impersonnalité, de l'indifférence, de la désinvolture, du « la guerre après tout, je m'en fiche ». Alors, est-ce que j'ai encore du temps, Gérard? Parce que sinon,
7 minutes.
7 minutes. Ah bon, mais c'est parfait. Alors, on va passer sur tous les défauts de Ravel. Un séducteur n'est pas un saint. Un séducteur n'est pas quelqu'un de franchement vertueux. Alors, il est caractériel, il oublie tout, il est très égocentrique. Bon, mais tous ces défauts témoignent en réalité en faveur d'un tempérament libre. Il est recalé 5 fois au prix de Rome, tant les jurys pompiers sont exaspérés que Ravel puisse impunément les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des imbéciles. Autre chose, vous êtes, je m'adresse à la partie féminine de l'auditoire, vous êtes des amis IES dévoués de Ravel, et vous lui rendez toutes sortes de services. Peine perdue. N'attendez surtout pas qu'il vous dise merci. Aimer et obliger Ravel ne vous donne aucun droit sur lui, qu'on se le dise. On le sait, on s'en fiche, on est séduit et on goûte son humour et sa légèreté. Et moi aussi, j'avais envie de citer la belle citation. En arrivant au bout de la rue de la Pépinière, on aperçoit ainsi, s'engouffrant dans la rue de Rome, une longue salmon VAL3 bicolore et profilée comme un escarpin de souteneur. Alors évidemment, c'est Eschnoz qui raconte, mais on a envie de dire que c'est Ravel qui voit et que comme Ravel est un dandy, cette référence aux escarpins, ça lui va, si je puis dire, comme un gant. Alors, il y a mieux que de l'humour. Je crois que le séducteur fascine par sa viscérale incapacité à l'auto-engouement. Le séducteur n'est jamais un militant de lui-même. D'ordinaire, au concert, il sort fumer une cigarette quand c'est au tour de ses œuvres d'être exécuté. Il n'aime pas être là quand on le joue. Il y a 2 interprétations, l'une malveillante. On a compris que Ravel jouait au piano comme un pied, en tout cas selon Eschnoz, donc il n'aime pas que les autres exécutent fort bien des œuvres que lui-même a la peine à exécuter. Mais l'autre chose, c'est tout simplement que finalement, il n'y a rien de plus ennuyeux que soi. Et je crois que Ravel, j'allais dire, en est une belle illustration. Ensuite, autre chose qui séduit, c'est que bien que Ravel ne s'aime pas beaucoup lui-même, il est très orgueilleux et il est très conscient de sa valeur. Un séducteur n'est pas quelqu'un qui doute de lui-même. Quand Toscanini modifie le tempo du fameux boléro, Ravel lui fait froidement remarquer « ce n'est pas mon mouvement ». Et l'autre, piqué, c'est quand même Toscanini. Quand je joue ça, dans votre mouvement, ça ne fait aucun effet. Bon, réplique Ravel, alors ne le jouez pas. Ravel 1, Toscanini 0. On commence à connaître la chanson. Plus révélateur encore, le rapport de Ravel à son propre ego. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il considère ses pieds, au bout desquels ses 10 orteils se déplacent tout seuls, bougent entre eux comme s'ils lui faisaient des signes, lui adressaient des marques de solidarité. Nous sommes tes orteils, nous sommes tous là et nous comptons sur toi. Tu sais que tu peux aussi compter sur nous, comme sur tes doigts. Alors, c'est très drôle parce que Ravel est quand même censé être un pianiste. Et là, si vous voulez, cette espèce de petite fétichisation affective de son corps, ça passe non pas par les doigts de la main, mais par les doigts du pied. Ravel joue comme un pied, on l'a dit. Mais il y a autre chose. Si j'étais l'étudiante de Gérard, ce que je n'ai jamais été, c'est dommage, eh bien, j'aurais parlé ici de la prosopopée des 10 orteils. C'est drôle quand même d'associer le mot orteil et le mot prosopopée. Nous sommes tes orteils. Bon. Ensuite, ce que je trouve d'intéressant dans ce passage, qui est évidemment délicieux, c'est le fait que le liquide amniotique, là, il y est à fond. Et je dirais que c'est ça, fondamentalement, le ressort du séducteur. Le séducteur, c'est quelqu'un qui se souvient qu'il y a incorporé à son corps quelque chose de l'amour perdu de maman. On perd tous sa mère, c'est la vie, on devient tous plus ou moins orphelins. Eh bien, le séducteur, c'est quelqu'un qui garde le souvenir de la présence de maman au cœur de son corps. Et là, la présence de maman au cœur du corps, eh bien, c'est ses 10 orteils qui lui parlent comme parle la mère suffisamment bonne de Winnicott. Nous sommes tes orteils, nous sommes ta maman, nous sommes tous là et nous comptons sur toi. Tu sais que tu peux aussi compter sur nous. Dernière chose peut-être, ou avant-dernière, la conscience, qu'est-ce qui est séduisant ? La conscience de la finitude, le refus décidé de se casser la tête avec l'infini. Et là, il y a un très très joli passage que je n'ai pas le temps de lire sur la signature. La signature, c'est le style. Bon, tout le monde fait des paraphes compliqués, prétentieux, tout le monde veut être profond et esthète, et Ravel, lui, il signe de manière sèche. Voilà. Bon. Refus aussi décidé du lyrisme romantique. Lamartine est bien mort. Comme Eschnoz, Ravel a toujours bien aimé la mécanique et les usines. Les rouages plus que les flots lui donnent des idées rythmiques. Et la conclusion à propos du Boléro ne se fait pas attendre. Voilà, il est en train de composer quelque chose qui relève du travail à la chaîne. Le style d'Eschnoz, c'est Flaubert plus l'électricité. Flaubert, c'est le style qui fait tenir le style, qui fait tenir le livre sur rien. Et l'électricité, eh bien, c'est la fascination pour la machine qui peut tourner un peu à vide. Et bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un écueil à tant de bonne santé psychique ? Le séducteur n'aurait-il pas quelques maladies cachées ? Eh bien, oui. C'est ce qu'il y a de plus émouvant et de plus... Mais c'est traité avec toute la distance qui s'y est. Ce qu'il y a de plus émouvant, c'est les maladies neurodégénératives, c'est Alzheimer, c'est toutes les saloperies comme le cancer, le sida, etc., etc. Là, vous avez beau essayer de faire le séducteur, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même une limite à la séduction. Et j'aime beaucoup la petite phrase de Lacan, le réel, c'est quand ça cogne. Et quand ça cogne, vous pouvez faire toutes les séductions possibles, imaginables, ça continue de cogner. Deuxièmement, le séducteur, même s'il est hautain, élégant, etc., n'échappe pas à la souffrance et à l'aveu humiliant que, finalement, tout n'est qu'une question de carapace. Tout l'art, la séduction, ne sert in fine qu'à se protéger de quoi ? On ne sait pas au juste, mais il faut quand même se protéger d'un mal qui soit se prépare, soit finit par se déclarer. Enfin, dernière chose, le séducteur sait qu'il ne peut rien contre l'ennemi des ennemis, celui qu'a bien désigné Baudelaire dans l'horloge, celui à qui Proust a consacré son œuvre, c'est-à-dire le temps. Là, encore une fois, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inséduisable. Et n'oublions pas, et ce sera le dernier point cette fois vraiment, n'oublions pas que Ravel est insomniaque. Je cite, « C'est qu'on ne peut pas faire tout en même temps, n'est-ce pas ? C'est toujours la même chose, on ne peut pas s'endormir en surveillant le sommeil. » Effectivement, le séducteur, c'est quand même toujours quelqu'un qui tient à tout maîtriser, qui refuse l'abandon, qui refuse peut-être l'amour, qui met son corps, sa vie, non plus sous le regard ici bienveillant de maman, mais sous l'œil inquisiteur de la loi. Et quand vous voulez tout surveiller, ben vous faites finissez peut-être par laisser échapper l'essentiel, c'est-à-dire la joie. Alors, Jean Ravel, Maurice Echenoz, si l'on se surveille sans arrêt, qu'on est donc un peu un névrosé obsessionnel, eh bien, autant avoir le panache et l'humilité d'être un névrosé séduisant, autant dire un artiste qui ne se prend pas trop au sérieux. Je vous remercie.
Merci Stéphane de cet exposé, comment, je ne sais pas si vous dire séduisant ou séducteur. Je me demande d'ailleurs si c'est un véritable séducteur, ce Ravel. On va en parler. Bon. Et si l'équation Ravel et Echenoz va de soi. Je disais, j'en reparlerai tout à l'heure dans la discussion, avant de laisser la parole publique, je disais tout à l'heure à Agnès en aparté, en pensant à l'exposé que tu allais faire, il m'est revenu et elle m'a trotté l'esprit là, pendant 20 minutes. Je pensais à un aphorisme de Cioran qui, quelque part, est pour moi le résumé de Ravel et de bien des pages d'Echenoz. Cioran dit « Le scepticisme est l'élégance de l'anxiété ». Et c'est exactement le résumé de Ravel. Et pour moi, je pense que c'est le terme d'élégance qui s'impose plutôt que celui de séduction. Parce que je veux bien, il a été séducteur. On sait que Ravel était un grand séducteur, c'était un dandy. Mais enfin, dans le roman, c'est un véritable répulsif. Enfin, oser dire à cette pauvre Marguerite Long, quelle conne, je sais, pour un séducteur, c'est raide quand même. Non, bon, on va en parler. Et une élégance sans doute, qui cache une grande angoisse sans doute. Un séducteur, séduire, c'est quand même étymologiquement attirer à soi. Or, justement, il n'attire personne à soi, hein, parce qu'il veut être seul, par angoisse. Et là, je trouve que, bon, quant à l'équation avec Echenoz, effectivement, comme tu l'as dit, ça c'est très important. Bon, il y a dans le séducteur un détachement de lui, il y a le refus de l'ego, du pathos de soi, etc. Et Echenoz le pratique. Je ne suis pas certain que Ravel le pratique au même degré. Hein. Pas du tout. Enfin, bon, mais il y a matière à discussion, de toute façon. Bon, je vais d'abord laisser la parole au public. Y a-t-il des questions? Il y en a sans doute. Tu fais passer les micros, Caroline ou... Allez, jetez-vous à l'eau. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. D'abord, qui est Oran de Mazy? Osez demander.
Oui, sûrement, parce qu'elle joue dans les films de Pagnol.
Oui, c'était sa femme.
Ah, c'était sa femme.
C'était sa femme. C'était peut-être d'horreur qui joue dans la trilogie.
Elle joue dans la trilogie de Pagnol,
oui,
voilà.
C'était sa femme.
Je ne savais pas que c'était sa femme. Elle joue dans Regain, dans Angèle. Angèle, bah, oui.
Donc je veux bien poser une question. C'est une simple lectrice qui parle, qui a pas seulement été séduite par Echenoz, mais qui l'a aimé, qui a beaucoup aimé cette exposition tout à fait virtuose. La rencontre avec le traducteur d'Echenoz était aussi passionnante. Et donc, à l'occasion de cette exposition, j'ai voulu lire le dernier livre d'Echenoz, Envoyé spécial, et j'étais donc très, très heureuse d'entendre l'exposé brillant de Bruno Blankermann. Donc, dans votre exposé, je retiens des mots plaisants, opérette, et puis vous dites, ce n'est pas seulement un jeu formel. Quant à moi, j'ai trouvé que c'était uniquement un jeu formel, donc qui m'a déçu. Donc, j'étais très... très attentif quand vous avez dit ce n'est pas seulement un jeu formel, puisque vous alliez dire ce que c'était aussi. Donc vous avez évoqué des milieux qui étaient visés. Donc le milieu du showbiz, la dictature, mais franchement, qu'est-ce d'autre que de l'opérette? Donc en fait, j'aimerais que vous en disiez plus, si c'est possible, sur ce texte à propos duquel Echenoz dit lui-même que l'intrigue est un mal nécessaire. Donc heureusement on a quand même une intrigue. Donc en fait, hormis ce jeu formel qui donne lieu aussi à des jeux formels que sont vos exposés vraiment brillants, très, très agréables à entendre. Finalement, qu'est-ce qu'on peut ressentir en lisant un livre tel qu'Envoyé spécial ? D'ailleurs, vous qui êtes spécialiste, avez-vous des éléments sur la réception des schnauzes ? Qu'est-ce qu'il fait au lecteur ? Donc, parce que, en fait, en lisant Envoyé spécial, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas d'objet. Une fois après l'avoir lu, il n'y a pas de traces. Il y a un plaisir, c'est plaisant. On applaudit comme à une opérette, mais il n'y a pas d'émotion, pas de traces. Et donc j'ai trouvé cet exposé sur la séduction tout à fait bienvenu, car je n'ai pas envie de dormir avec lui.
Je n'ai pas entendu la
fin. Je n'ai pas envie de dormir avec lui. Donc, c'est pas un séducteur.
Ça n'était pas le but de mon exposé que de vous y contraindre. Alors, oui, ce qui m'a toujours frappé dans l'œuvre de Jean Echenoz, c'est effectivement qu'on peut en faire une lecture finalement à plusieurs niveaux. On peut la lire. Alors, je fais référence à ces premier roman, Le Méridien de Greenwich, Cherokee, jusqu'à Je m'en vais. Ce sont des livres que l'on peut lire comme des sortes de variations parodiques sur des formes romanesques que l'on connaît, le roman d'aventure, le roman policier, le roman de science-fiction aussi, ou d'anticipation dans Nous trois. Et puis, alors j'allais dire en même temps, je vais peut-être éviter, simultanément, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que cela, il y a aussi un esprit de sérieux qui ne se développe pas, un esprit de sérieux qui passe par le rire, parce que finalement, le reproche que vous faites à Echenoz ici, on pourrait tout autant le faire aux grands écrivains que j'ai cités en ouverture, ceux qui jouent la carte du rire, c'est-à-dire dont l'amorce et le lieu de travail est le comique. Par exemple, Rabelais, on peut très bien le considérer comme une sorte de grand écrivain de divertissement, sans saisir ce que ce rire recoupe et camoufle en même temps. Et chez Echenoz, il me semble que ça va dans le même sens. Alors, ça n'est pas tant pris isolément la dictature coréenne du Nord et le milieu du showbiz qui font chacun l'objet d'une satire qui pourrait être vraiment clairement objectivable. Mais c'est le télescopage des deux. Ce sont aussi tout ce que recouvre le comique echenozien, cette manière qu'il a de mettre en scène des personnages tous plus ou moins malmenés par l'existence qui leur prête, cette espèce de cruauté de l'écriture qui nous fait rire, et comment, malheur des autres, du malheur du monde, cette manière donc d'aborder véritablement de grandes questions, mais en les abordant par le détour, sinon de la parodie, du moins de la distanciation. Si on prend la première partie de l'œuvre d'Echenoz, ce qu'il visait, et on a été quelques-uns à essayer de le montrer dans des travaux qu'à l'époque on a consacrés, c'était que c'était un des premiers écrivains qui tâchait de représenter la société du spectacle, ce qui n'était qu'une sorte de slogan socio-philosophique, société du spectacle. Qu'est-ce que ça donne en termes de représentation ? Eh bien, quand on lit Lac, par exemple, ou Les Grandes Blondes, ou d'autres romans, on en a une sorte d'avant-goût, mais il ne faut pas chercher un discours qui serait un discours véritablement didactique. On n'est pas dans l'explicitation de la critique, on n'est pas dans la sursignification. Tout passe par un jeu qui est à la fois très drôle, mais qui justement est tellement drôle, tellement affiné, tellement associé à une structuration du style et du romanesque, que ce jeu-là, eh bien, il conduit à s'interroger. qui le conduit à s'interroger. Alors, ce que j'ai proposé, ce sont simplement des hypothèses de sens, puisque, effectivement, on ne trouvera jamais, dans aucune phrase des romans d'Eschnauz, une sorte d'explicitation littérale de ce qu'il chercherait à démontrer ou à représenter. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi par-delà, mais au travers du rire dans Envoyé spécial, c'est ce parallèle entre Creuse et Corrèze. Et, pardon, beau lapsus.
Oui, mais on va dire Creuse-Corrèze,
ça fonctionne ensemble, et Corée. Oui. Hein, à la différence, alors il y a Corée du Nord, Corée du Sud, mais là ça ne fonctionne pas ensemble. Voilà, qu'est-ce que ça signifie cette idée d'une jeune femme qu'on enlève et qu'on envoie faire un stage en immersion contre sa volonté en Creuse, puis ensuite qu'on balance en tant qu'espionne et séductrice en Corée du Nord. C'est à la fois extrêmement lourd sur le plan du contenu, très léger dans l'écriture, et en même temps, il y a véritablement quelque chose qui fait sens. Et tous les romans de Jean Eschnauz se lisent un peu comme cela aussi.
Oui. Il y a un exemple qui est quand même très significatif, peut-être de tous les livres d'Eschnauz, c'est le plus parlant. Et il suffit que vous pensiez à un modèle littéraire que vous ne pourriez pas accuser de légèreté, je vais y revenir, hein. Pensez à 14. Pensez à tous les romans de guerre et aux tonnes d'horreur que le genre littéraire a déversé, et pensez à la pointe sèche qu'a adoptée Eschnauz pour écrire 14, qui est pourtant un livre à certains moments insoutenable. Or, présenter les choses sous un jour burlesque peut être une manière d'en faire ressortir l'absurde et donc de le rendre encore plus tragique. Et il y a un modèle littéraire dont je suis persuadé que Eschnauz s'est inspiré consciemment ou inconsciemment dans le genre même du récit court. C'est le Candide de Voltaire. L'absurdité de la guerre est présentée de manière bouffe chez Voltaire. Vous ne diriez pas que c'est pusillanime, hein ? Pas du tout. Donc là, et je crois que Bruno a raison d'insister, il y a chez Eschnauz, d'ailleurs l'exposition a été faite aussi un peu pour ça, toujours cette double face de quelque chose qui est mi-sérieux et mi-bouffon, et entre lesquels il est difficile de départager. Là où, après je vous laisse, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est certain qu'on ne peut pas simplement rapprocher Envoyé spécial de par exemple du Meridian Greenwich, oui. Au début de la fin. Il y a entre les deux toute une œuvre qui s'est développée, et il est certain que plus l'œuvre avance, plus le jeu discursif, qui peut avoir quelque chose d'un peu gratuit, a pris de l'importance chez Eschnauz. Ce qui peut donner cette impression d'amusement un peu gratuit. Mais attention, il y a toujours quelque chose, même sous la forme la plus incongrue, Creuse, Corée du Sud, une dimension qui est une dimension sérieuse. Sinon, je pense que ce ne serait pas le romancier de la qualité qu'il est. Hein. Bon, voilà, pour vous répondre, si on a répondu. Pardon, Bruno, tu voulais...
Non, je disais aussi que c'est peut-être l'œuvre d'Eschnauz s'inclut aussi dans une certaine littérature qui est celle se développant en France depuis les années 80, peut-être même un petit peu avant, où le rapport au sens, à la réflexion, au message, comme on disait parfois, se fait beaucoup plus léger, beaucoup plus légèrement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de romans à thèse, on n'a plus de romans démonstratifs, mais en même temps, on a des écrivains et des œuvres qui abordent des questions de fond. Hein, l'autre exemple que l'on pourrait donner, si l'on rapproche cette espèce de détachement de la grande écriture, même si le ton, le registre sont totalement différents, c'est Modiano. Modiano, on entend aussi souvent ce reproche que vous faites, mais par rapport non pas à par rapport non pas au comique, mais par rapport à la nostalgie, la mélancolie. On lit tel roman, on aime beaucoup, et puis deux jours après, on a tout oublié. Donc finalement, à quoi ça sert ? Et je crois que c'est une des questions que nous posent les romanciers de cette génération. Hein, ils sont nés quasiment la même année. Même si Modiano publie depuis 1968, c'est comment, en quelque sorte, sauver le pouvoir de questionnement critique de la littérature en économisant tout ce qu'il peut y avoir de démonstratif, tout ce qu'il peut y avoir d'explicite dans le rapport au sens. Parce que, finalement, depuis les années 1980, notre rapport au sens, au grand système de sens, aux grandes thèses, au grand discours de vérité, eh bien, il s'est relativisé. Hein, on vit dans une sorte de désenchantement par rapport au sens. Et c'est aussi ce qui fait que les romans d'Eschnauz, ils oscillent entre le drôlatique et une sorte de mélancolie dont Agnès a parlé, dont Stéphane a parlé également. Et c'est entre cette drôlerie et cette mélancolie qu'il y a peut-être une voie possible pour la signification. Pour l'approche de choses, on va dire, sérieuses, pour faire vite.
J'attends d'autres questions, notamment sur le personnage de Ravel. Allez-y. Et puis sur les objets.
Personnage séducteur, c'est très bien.
Personnage séducteur, oui. Qu'il était, hein. Je ne conteste pas le fait que...
Du Bouchard aussi.
Ah ben ça, surtout, oui.
Il y a une phrase extrêmement drôle, alors je cite de mémoire, donc très imparfaitement, mais tous ses amis se ruent au Havre pour l'accueillir à son retour d'Amérique. Alors aucun merci, aucun bonjour, rien. Et la phrase est la suivante, j'aurais bien voulu voir que vous ne fussiez point venu.
Oui.
Hein, c'est ça.
Oui, c'est pour ça que quand tu disais, et bon, je ne le conteste pas, il y a une part de vérité incontestable, quand tu dis qu'il y a un détachement de lui dans le séducteur, le problème c'est qu'il a beau faire, il n'arrive pas à se détacher de lui. Il est d'un narcissisme absolument épouvantable. Et c'est peut-être là que la limite avec l'équation avec Eschnauz se pose. Je pense pas que sur le scepticisme, sur l'anxiété, sur la distance, d'accord. Pour tout ce qui est le côté dandy, goujat, impossible, là, bon, d'abord ça conteste le personnage séducteur. Puis franchement, Eschnauz n'est pas du tout comme ça. Donc voilà. Mais bon, c'était la limite. Cela dit, je partage. Il y avait des tout ce que tu as dit, par exemple, du bain du départ, ça c'était magnifique. Bon, j'avais jamais remarqué effectivement que Ravel est l'anagramme de laver. Ça, c'est une belle trouvaille. Hein. Et je pense que ça, c'est très important dans la continuité thématique du roman. C'est très très important. Des questions. Donc sur les séducteurs, vous êtes tous des séducteurs et séductrices, donc ça fait du sans doute. Pas de questions. Ah, monsieur.
Si, c'est enregistré, c'est pour ça qu'on aime bien avoir un micro.
Non, c'est juste par rapport à ce que moi j'appelle la trilogie biographique, qui n'est. Bref, on va dire ça comme ça. Il y a un autre grand séducteur dans l'histoire, c'est Tesla, enfin Grégor.
Grégor ?
Ah oui.
Grégor,
oui, le personnage des éclairs, d'accord.
Oui, c'est un grand séducteur, ce qui est dit à demi-mot tout du long, bien que son obsession de la propreté, enfin, il ne supporte aucune femme, toute cherche à faire sa conquête, etc., à part, donc, madame, c'est pas Athanagore, bref, là.
Oui.
Bref, qui seule trouve grâce à ses yeux. Mais il y a tout un parfum de séduction. Très étrange qui flotte également dans ce troisième épisode de la trilogie, alors que chez Atopek, il n'y a rien de tel. Ouais.
Non, mais je suis bien d'accord, malgré qu'il en est en quelque sorte, Grégor est un grand séducteur. Hein. C'est un manipulateur au sens propre. Il suffit de voir ses exercices de virtuosité. Ouais. Il attire les gens à lui. Hein. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit. En tout cas, il est très différent de Ravel, lui, ça. Stéphane.
Alors, qu'est-ce qu'on pense ?
Ce que j'en pense, c'est que je citerai volontiers un professeur de linguistique japonais qui était venu dans mon ancienne université à Saint-Étienne et qui avait creusé en moi une espèce de révélation quand il m'avait dit finalement, bon, je ne vais pas faire l'accent japonais, mais il m'avait dit finalement, le zen c'est très simple, c'est le vide attire et le plein repousse. Et je crois que, si vous voulez, je dirais que chez Ravel, c'est un peu ça. Et chez Eschnoz aussi, sans doute. Et quand je parlais du parallèle, je ne faisais pas de parallèle entre des personnes, entre des hommes, parce que je pense qu'effectivement, Eschnoz, que je ne connais pas personnellement, j'ai aucune raison de penser qu'il est caractériel ou qu'il est désagréable avec les femmes, etc., qu'il est misogyne. Non, je voulais simplement dire, si vous voulez, qu'il y a dans ces écritures, dans ces esthétiques, il y a une part de vide, si vous voulez, qui attire. Oui. Et que la séduction, c'est ça. Enfin, ce que je crus comprendre de la séduction chez Eschnoz Ravel, c'est ça. C'est-à-dire l'idée que le séducteur, c'est celui qui ne va pas dévoiler ses batteries de séducteur en déployant un arsenal de séduction relativement conventionnel. C'est facile de séduire une femme en lui disant qu'elle est belle. Bon, d'ailleurs, souvent, elle se méfie maintenant. Par contre, séduire une femme en lui disant qu'elle est conne, ça, c'est quand même... Il la séduit pas, mais enfin, disons qu'on voit que c'est un homme qui plaît aux femmes.
Ça reste un grand mystère d'ailleurs dans la vie de Ravel.
Non, mais enfin, disons qu'au début, si tu veux, on voit tout. Tu sais, attends, quand elles sont toutes les deux sur le. Quand elles sont toutes les deux. Elles sont toutes les deux sur la gare. Attends, je n'ai pas lu la citation.
Dans le micro.
Celui-ci. Le train n'est même pas à quai lorsqu'on se présente. Ravel, ouvrant la marche et suivi à distance par ses amis qui aident tant bien que mal deux porteurs du terminus à traîner quatre volumineuses valises ainsi qu'une malle. Ses bagages sont bien lourds, mais ces jeunes femmes aiment tellement la musique. Bon, voilà, je veux dire, elles aiment. Là, je citerai volontiers Michon qui dit « être la musique ». Personnellement.
Hein, comme oui, c'était... c'est ça, oui. Il dit oui, la poésie personnellement.
Bon, voilà, hein, c'est une phrase récurrente chez Michon. Hein, être la poésie personnellement, c'est Rimbaud. Être le style personnellement, c'est Flaubert. Bon, le séducteur, c'est celui qui vous fait croire sans être aimable, sans vouloir séduire, qu'il est ce à quoi tout le monde tient, c'est-à-dire la musique ou la poésie. En personne, voilà. Et puis là, c'est très drôle parce que à l'époque où finalement certaines femmes ne veulent plus d'hommes galants qui les renverraient à leur faiblesse physique, bon ben là, on voit que ce sont les femmes qui s'occupent des valises et que lui, il est là en tête et que voilà. C'est un nabo. Oui, mais enfin bon, normalement le nabo à l'époque de Ravel, il tenait quand même à porter sa valise et à, si possible, à porter celle de la jolie femme qui l'accompagnait. On s'aperçoit que chez Ravel, c'est tout autre chose. Il se fiche complètement et il est bien content.
Complètement, puisque Hélène, qui est un peu amoureuse de lui.
Pas complètement.
Voilà. Voilà. Donc elle vient le chercher dans un froid glacial et il la laisse poireauter longtemps dans la rue. Elle lui dit, vous auriez quand même pu me faire rentrer, il fait très froid. Et voilà. Quoi. Non, c'est un goujat.
C'est un goujat.
Mais alors, pourquoi les femmes sont-elles à ce point attirées par les goujats? Enfin, les femmes, excusez-moi pour cette généralisation hâtive.
Fascination, parce qu'il y a une dimension qui est effectivement chez lui très, très, très intrigante. Mm. Mais il y a un jeu de trompe-l'œil dans le roman, parce qu'en réalité, bon, les 10 années dont il est question, c'est quasiment les 10 plus grandes années de création musicale en France. Et on te dit dans le roman que la vie de Ravel, c'est rien. Donc, à partir de là, tout est faussé. Parce que, bon, alors du coup, peut-être qu'effectivement, la parole que tu as dite sur le vide serait à méditer, hein, parce qu'il y a une forme de... Mais on peut penser que l'attirance qu'il fait naître est tout simplement par le fait qu'en dépit de ses défauts, de sa méchanceté, de sa goujaterie, c'est un immense génie. Et c'est quelqu'un qui fascine.
Il y a aussi un cas, alors j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir,
très intéressant parce que c'est pas une femme, c'est un homme et c'est pas un musicien. Il n'entend rien à la musique. Or, c'est son voisin. Je sais comment
ah oui, qui a un nom en Z. Oui.
Il a un nom en Z.
Zagreb ou
Zobeg. Eh bien, va rester fidèlement, mais oui, très fidèlement, pendant des années, de 5 à 8, toute la déchéance de Ravel, cet homme va rester à ses côtés de 5 heures à 8 heures tous les jours.
Oui. Et puis il y a aussi là une part de commisération, parce que le dernier Ravel, malheureusement, on voyait bien qu'il perdait légèrement les pédales. Mmh. Et là, il y a une forme d'amitié qui se crée, bon, qui est compréhensible, parce que bon, on voit bien que sa solitude est terrible. Bon, le débat reste ouvert. Et d'autres questions avant que nous prenions une pause ? Bien, donc nous nous retrouvons d'ici une vingtaine de minutes à peu près pour la suite des exposés, donc sur une question qui n'appellera pas moins de débat que la séduction, c'est-à-dire sur les formes de l'humour dans l'œuvre de Deschenaz. Voilà, merci à vous et alors à bientôt, à tout de suite.